Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les humains. Voici le numéro 2 de l'émission proposée par votre serviteur Dominique Desmichel avec ses complices Gabriel Seban et Olivier Lostis. Elle part d'une interrogation du quotidien, par exemple, pourquoi aimons-nous grimper aux arbres? Pourquoi dit-on des gros mots sur ton voiture? Peut-on tirer des leçons du passé ou pourquoi parlons-nous avec les mains? Faut-il croire l'État? Et surtout, patati et patata. Alors, un même plan, un petit peu thèse, antithèse, synthèse et parfois foutaise, avec parfois un invité, peut-être juste le quidam croisé dans la rue, mais toujours une interrogation, c'est quoi la question? Question sérieuse, question curieuse, question futile, question utile, question existentielle, question démentielle. C'est à vous de choisir selon votre écoute. Alors, nous vous proposons de nous saisir d'une simple question au départ, anodine, mais que nous pensons tout aussi essentielle. Pour prendre le temps de réfléchir, de poser les enjeux, de parler pour ouvrir l'intelligence avec philosophie et humour, dans le sérieux et ou le divertissement. Mais aussi pour se forger peut-être un art de vivre par nos temps difficiles, pour naître une seconde fois, pour lutter à visage découvert contre l'instinct de mort, trop souvent à l'œuvre dans notre histoire, pour celui qui hésite à chercher la pépite d'or dans l'océan du tragique. Donc, bonne écoute à vous tous, chers auditeurs. Gabriel, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour Dominique, bonjour Gabriel.
Alors, venons-en aujourd'hui à notre question. Et cette question, je vous la pose bien évidemment à tous les deux, en même temps qu'à nos éditeurs. L'ignorant peut-il être heureux? L'ignorant peut-il être heureux? Bien sûr, on en vit parfois l'innocence de l'enfant, ou l'authenticité de celui qui est parti s'occuper de chèvres, par exemple dans le Larzac, voire de temps en temps, peut-être moins souvent, on en vit aussi le sourire de l'idiot du village. Dans le mythe chrétien de la Genèse, la sortie de l'Éden, à mon avis la sortie de l'enfance, passe par la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cela semble ouvrir au malheur, alors faut-il en conclure que c'est la condition incontournable de l'adulte responsable. Et puis l'enfant Mowgli doit affronter le serpent Ka et le tigre Shere Khan. L'enfant sauvage ne semble pas, à ce qu'on en sache, extrêmement heureux. L'innocence ne semble pas donc synonyme de bonheur. Par ailleurs, on se méfie d'un érudit qui pourrait paraître un peu tristouné et on craint l'excès, l'hubris d'un savant fou genre Docteur Follamour ou Frank Einstein. Et puis Hermione, tout le monde la connaît, l'amie de Harry Potter, elle est rapidement agaçante et elle pourrait nous gâcher le quotidien. L'école, elle-même, dispense un savoir et n'est pas une institution apprenant à acquérir une sorte de joie spinozienne, un conatus, disent les gens savants. Alors, connaissance et bonheur ne semblent pas si liés. Pourtant, il semble bien qu'une forme de savoir protège. Il semble bien que l'expérience rende prudent et autonome, donc qu'elle nous permette d'élargir notre champ de conscience. Peut-être que tout ça renseigne sur les conditions du bonheur et pourrait nous y inviter en même temps. L'ignorant semble instinctif, aisément manipulable, vivant dans l'illusion d'un monde sans ombre. Mais l'humain n'est en même temps pas omniscient et doit donc trouver son bonheur malgré tout ce qu'il ne connaît pas. L'ignorance peut être aussi et parfois temporairement consolatrice. Ne jamais penser à la mort peut, par exemple, nous faire croire qu'elle n'existe pas. Prenons quelques exemples concrets pour cette introduction. Le droit pénal, vous le savez bien, nous le savons bien, postule que nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut donc se réfugier derrière l'argument de l'ignorance « Ah, ben j'étais pas au courant » pour revendiquer par exemple des droits ou des plaisirs qui pourraient nuire à autrui. Le bonheur passe donc, ou une certaine forme de bonheur, passe donc par la connaissance et le respect des autres et de leurs mœurs. Et puis, dans un autre champ peut-être littéraire, Jésus dit dans Matthieu au chapitre 5 « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Chouraki, d'ailleurs, traduit par « En marche, les humiliés du souffle. Le bonheur semble donc ouvert au cœur pur et le savoir être tout à fait inutile au salut promis pour les hommes de foi. Pascal, au XVIIe siècle, deuxième moitié du XVIIe siècle, parle de ces divertissements qui sont autant de jeux futiles qui trahissent nos refus de méditer sur le sens de l'existence et donc d'accéder au bonheur. Alors, est-ce que ignorer serait une sorte de piètre défense ? Rousseau, par contre, dans l'Émile, en 1762, donc un tout petit peu un siècle plus tard, après Pascal en tout cas, base l'expérience de la vie, non dans les livres, mais dans le lien à la nature, qui, selon lui, forge un caractère pur, loin de la corruption des hommes. Cela seul, dit-il, permet d'accéder au bonheur. Il critique l'éducation qui fait des enfants, des singes savants, et pour lui, être heureux, c'est savoir peu de choses, mais les savoir bien. Et c'est souvent ce que l'on a appris tout seul qui satisfait le plus. Donc, bonheur et simplicité semblent liés, loin des savoirs. Candide, dans son livre éponyme, celui de Voltaire, parle de cultiver son jardin et de s'en tenir là, face à tous les malheurs du monde. On sait que Pangloss, c'est une sorte de caricature de Spinoza, selon Voltaire. Diderot, dans son supplément au voyage de Bougainville, 1796, raconte que le bonheur des Tahitiens vient d'un mode de vie conforme aux prescriptions de la nature. Toute l'île, dit-il, forme une seule et même famille. L'état de perfection semble donc un état d'équilibre entre nature et culture, et c'est peut-être une des paroles des philosophes des Lumières. L'ignorance, certes, est notre état originel. L'enfant est naturellement irresponsable, et c'est tant mieux. Mais curieux de tout, il expérimente tout sans avoir besoin d'un savoir préalable. Mais nous désirons savoir, et cela semble ouvrir à quelque chose de plus large, possiblement, peut-être, une invitation au bonheur. Quand bien même le savoir, en lui-même, ne saurait être gage de ce bonheur. Et puis, apprendre requiert des efforts. L'omniscience est impossible. Plus on sait, plus l'on comprend que l'on ne sait pas grand-chose. Et les grandes énigmes restent inconnaissables, en particulier celles du sens même de la vie. Mais connaître, n'est-ce pas le moyen d'être plus libre et donc plus heureux ? Et puis, c'est quoi finalement être heureux ? Puisque la question d'aujourd'hui, c'est l'ignorant peut-il être heureux ? Sûrement pas avoir plein de plaisir. Bonheur et plaisir s'opposent le plus souvent. Pour choisir le bonheur, le bon chemin du bonheur, ne faut-il pas en connaître justement le chemin, donc sortir de l'ignorance ? Alors, voilà ma question après cette un peu longue introduction. Faut-il faire le choix de l'ignorance pour espérer être heureux ou chercher à étendre nos connaissances pour y trouver le chemin de son bonheur, saisir ce que l'on croit comprendre pour orienter nos choix existentiels ? Chers amis Gabriel et Olivier, je vous retourne donc la question. L'ignorant peut-il être heureux ? À vous.
Moi, j'aurais tendance à dire, a priori, oui, il peut être heureux. Sinon, en fait, nous serions peuplés de malheureux. Et le monde, effectivement, même s'il a des choses à tirer, à traîner pour évoluer positivement, n'est pas fait que de malheur. Hein. Donc, j'oppose malheur et bonheur. Quoique bonheur, pour moi, ça me pose la question, est-ce qu'on est dans un état statique de bonheur qui serait un état de béatitude installé, ou est-ce qu'on est dans une dynamique permanente dans laquelle, finalement, il s'agirait non plus simplement de passer sur l'instant bonheur, mais essayer de le capter sur une durée plus importante. Bon, alors, interrogation sur le bonheur. Puis le bonheur, faut-il encore pouvoir le définir dans une dimension collective ou dans une dimension individuelle, je ne sais pas. Il faut cerner l'ignorance également. L'ignorance est-elle s'adresse-t-elle à l'individu ? À une société, à une culture de cette société, ou à un collectif qui draine via sa culture une certaine forme d'ignorance, parce que on est tous ignorants finalement. On est tous ignorants, on ne peut pas maîtriser la totalité des savoirs. Donc voilà, moi, ça commence par me poser cette question. Voilà. Ensuite, j'éternue et je reprends contact avec une réflexion plus,
d'accord,
plus ouverte sur la question.
Et ça fait du bien d'éternuer.
Ah, ça fait énormément de bien d'éternuer.
D'accord.
Surtout quand on est enrhumé.
Surtout. Ouais. Et c'est mieux de le savoir ?
Eh bien, ça, c'est une vraie question. Parce que est-ce que savoir la chose nous permet d'agir sur la chose ? Souvent, oui, et c'est le principe scientifique,
ouais,
que tu définis. Mais combien de domaines nous poussent à connaître sans pouvoir intervenir ? Et est-ce que là, il n'y a pas un chemin fermé d'accès au bonheur ?
Alors, à propos du bonheur en tant que dynamique, justement, c'est bien Spinoza, il appelle ça persévérer dans son être, hein, voilà, persévérer dans son être pour le meilleur, bien évidemment. Alors, j'ai envie de me tourner vers toi, Olivier, pour entendre ton éternuement personnel.
Alors, bah, d'abord, je voudrais dire que le fait d'associer l'ignorance et le bonheur, je trouve que ce n'est pas simple. Ouais. Évidemment, on dit... On a des adages comme l'imbécile heureux ou des choses comme ça, mais c'est rarement connoté très positivement quand même un imbécile heureux. Hein.
Voilà. Ouais.
Quand on désigne, ouais, quelqu'un de ce qualificatif-là, c'est pas... on lui suppose une espèce de bonheur béat, de
par
peu
défaut.
D'intérêt par défaut et de peu d'intérêt, c'est-à-dire qu'on ne voudrait, ouais, pas partager ce bonheur-là. Donc c'est un petit peu particulier. Alors, donc l'ignorance, ça serait... par opposition essentiellement, tel qu'on le dit là, à la connaissance, parce qu'on pourrait très bien aussi parler d'ignorer, au sens d'ignorer quelqu'un, c'est-à-dire ne pas lui porter attention, voire s'en détourner. C'est une autre manière de parler de la question de l'ignorance, en tout cas l'ignorance qui s'oppose à la connaissance. Je n'ai aucune idée quant à savoir si elle peut entraîner le bonheur. Ce qui est sûr, c'est que ignorer ce qui peut causer dans un futur plus ou moins proche du malheur, peut permettre de rester dans une espèce d'immédiateté, d'un optimisme immédiat et béat. Pourquoi pas ? Mais ça, on rejoint presque la définition de l'imbécile heureux quand on dit ça. Après, ignorer le malheur, il me semble, si on le dit comme ça, que ça rejoint plutôt la deuxième connotation, non pas du substantif ignorance, mais en tout cas du verbe ignorer, c'est-à-dire que c'est mettre de côté le malheur. C'est ignorer au sens de ne pas porter attention au malheur. Est-ce que ça rend forcément heureux ? C'est une question aussi, puisque c'est par exemple, alors là, la casquette du psy, ignorer le malheur, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle le refoulement. Et on sait que le refoulement, par exemple, est un moteur essentiel pour la fabrication de symptômes éventuellement très handicapant, de mal-être extrêmement handicapant dans la vie. Donc l'ignorance, par exemple, d'un certain nombre de mécanismes inconscients, le refoulement d'un certain nombre d'expériences malheureuses dont on ne veut rien savoir, en général, n'est pas en mesure de générer du bonheur, mais au contraire, peut-être pas du malheur, en tout cas du mal-être. Alors, j'aurais plutôt, contrairement à Gabriel, en première intention comme ça, une réponse plutôt négative. L'ignorant peut-il être heureux ? J'aurais tendance à dire qu'il peut surtout ne pas l'être, probablement.
Alors, il me semble qu'on sent bien dans vos deux interventions qu'il y a quelque chose autour d'une dynamique, hein, qui n'est pas obligatoirement évidente dans la question, parce qu'on pourrait entendre l'ignorant peut-il être heureux, c'est-à-dire si à tel jour... je suis ignorant, est-ce que je peux être heureux en même temps ? Alors que finalement, et toi, Gabriel, dans ton questionnement autour du bonheur, et toi, en faisant référence plutôt au mécanisme psychique intérieur, oui, qui pousse à, par exemple, le refoulement, vous intégrez au fond le rapport à la connaissance avec un rapport au bonheur. Alors est-ce qu'on peut essayer de reprendre un petit peu ça en essayant de se dire, si on pense en effet que le bonheur n'est pas quelque chose de l'ordre de l'instant, mais que c'est un processus, et si on se dit que, bien évidemment, comme nous naissons tous largement ignorants, et que l'ignorance est aussi un processus d'apprentissage, par exemple, la connaissance, est-ce qu'on peut faire un parallèle alors entre ces deux processus ? Un processus qui irait du côté du bonheur, Est-ce et un processus qui va du côté de la connaissance? Et est-ce que l'un contribue à l'autre? On sait très bien qu'il y a bien évidemment des milliers d'autres choses que la connaissance qui contribuent au bonheur. La joie d'être ensemble n'est pas du côté probablement de la connaissance, et ça contribue largement au bonheur. Mais est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Gabriel?
Alors, moi, j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui désacralise le savoir. Et je commenterai après, mais je vais vous raconter l'histoire d'abord. Alors, c'est deux personnes qui sont face à face, et l'une, forte de l'impression qu'elle veut donner à l'autre, qu'elle maîtrise mieux que lui le processus du savoir, lui fait cette démonstration. Je prends une puce. Une puce...
L'animal.
Bien sûr, l'animal. Une puce, non pas informatique, non, c'est le post-moderne. Non, je prends une puce.
La bonne vieille puce.
Voilà, celle qu'on trouve quelquefois sous des matelas lorsqu'effectivement ils ne sont pas assez aérés et qu'il y a matière à s'en plaindre. Bon, alors, fort de l'impression qu'il veut donner par le savoir qu'il maîtrise, il dit à son vis-à-vis. Tu vois ? Oui, il le tutoie. Cette puce a 6 pattes. Je prends cette puce et je lui dis « saute ». Et, corrélation ou pas, la puce saute, parce que la puce ne reste pas en place. Il prend la puce et lui arrache une patte. Il lui dit « saute ». Et la puce saute à nouveau. Il fait la même chose avec la deuxième, même considération, même la troisième, la quatrième, la cinquième, et à la sixième, il lui dit « saute », et observation, la puce ne saute plus. Et il dit, fort de sa connaissance et de sa logique des mécanismes, dont le savoir revendique effectivement la priorité, il dit, tu vois, quand on enlève les 6 pattes à une puce, elle devient sourde.
Voilà, on s'attendait bien à ça, elle devient sourde.
Alors, d'accord. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'en fait, on se fait fort souvent d'un savoir qui est assimilé à une pratique intériorisée, une pratique habituelle, une pratique sans exigence, mais qu'on révèle en tant que savoir à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce savoir-là est tout à fait en phase avec l'ignorance qui le porte. Et la personne, forte de cette ignorance, eh bien, fait correspondre l'image de la réalité avec la perception qu'il en a. Et ça, je pense que c'est une finalité humaine qui rend heureux. On est malheureux lorsque le monde ne correspond pas à notre représentation des choses. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter.
En tout cas, on sent bien que dans l'histoire de la puce, il y a quelque chose de l'ordre d'un savoir. Mais est-ce que la question, c'est est-ce que la puce est heureuse? Parce que je sens que Radio Rancial va quand même avoir quelques appels de la SPA en disant qu'on raconte des histoires terribles ici. Donc, Olivier, toi et tes puces
je pensais plutôt à ta question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des processus à l'œuvre? Et puis, avant même d'imaginer un processus entre l'ignorance et le bonheur, par exemple, je me suis demandé si l'ignorance pouvait être en soi un processus. La connaissance, on voit bien dans l'histoire de Gabriel, d'ailleurs, des puces, qu'il s'agit bien d'un processus. C'est-à-dire qu'il y a une expérience qui est mise en œuvre. Dans cette histoire, évidemment, la conclusion qui est tirée est un petit peu...
Tirée par les pattes.
Absolument. On pourrait dire erroné, et en même temps, il faut se méfier, parce qu'il n'est pas absolument certain que certaines conclusions d'expérience n'aient pas été aussi étranges parfois. Quand on imagine des corrélations, quand on constate des corrélations entre deux phénomènes, parfois l'explication de cause à effet est un peu baroque et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours la bonne. Donc effectivement, l'histoire des puces, c'est peut-être une blague, et en même temps, elle porte une vraies questions épistémologiques, hein, du côté des sciences expérimentales en tout cas. En tout cas, là, il y a un processus qui vise à la connaissance. Que cette connaissance soit erronée ou pas, c'est une autre question, en tout cas, qui vise à l'acquisition d'une connaissance. Et si, par contre, on regarde du côté de l'ignorance, je pense que on pourrait peut-être dire qu'il n'y a pas de processus. Quand tu fais référence au bon sauvage, ou à l'état de nature, au bon sauvage rousseauiste, si on caricature un peu, parce que c'est évidemment un tout petit peu plus subtil que ça, mais en gros, Rousseau, parlant de l'enfant et du bon sauvage, de l'état de nature, désigne là quelque chose comme une stase, enfin un état éventuellement immuable, qui peut générer du bonheur parce qu'il y a une adéquation, comme le dit Diderot, entre l'environnement et puis ce que la personne vit dans cet environnement-là. Oui, mais c'est quelque chose comme immobile, en quelque sorte. Alors, si on parle de processus, j'ai l'impression en tout cas qu'il faudrait peut-être mettre l'ignorance du côté de l'absence de processus, oui. Du côté d'un état d'arrêt, en quelque sorte, et la connaissance, par contre, du côté d'un état d'avancée. Et je suis assez persuadé que l'état de nature, maintenu comme ça, est quelque chose qui est à peu près hors de portée de l'être humain, qui toujours est poussé en avant, et que, par exemple, lorsque Rousseau parle de l'état de nature, du bon sauvage, etc., du Rousseau, Diderot, eh bien, il parle d'une fiction qui n'existe pas. Je ne pense pas qu'il existe un être humain à l'état de nature. Je ne pense pas qu'il existe un être humain qui n'ait pas envie de mettre un pied dans l'autre et d'avancer, d'expérimenter, d'arracher ses pattes aux puces, par exemple, pour voir ce que ça fait, pour comprendre ce qui se passe. Et ça n'est pas parce qu'il y a des situations de progrès technologique plus ou moins avancées qu'on peut considérer, par exemple, les peuples premiers comme des peuples qui n'ont jamais évolué. Ils ont construit des systèmes théologiques, ils ont construit des systèmes culturels qui n'ont rien à voir avec une espèce de cooptation comme ça avec le phénomène naturel. C'est, je pense, une illusion absolument.
Oui, moi je vais rebondir. Oui, j'adhère assez à cette analyse-là de nos processus de l'ignorance. Toutefois, il faudrait quand même signaler que l'ignorance a quand même un objet historique. L'histoire des ignorants a servi avant tout à, comment dire, a servi avant tout à l'histoire de l'accès à la culture écrite. C'est-à-dire qu'en fait, on aura opposé, à un moment donné, le savoir transcrit, qui se rationalise beaucoup plus que le savoir oral, qui, lui, je dirais, est beaucoup plus... comment dire, aménageable au point de vue de sa crédibilité. Et on le voit bien à notre époque encore avec les fake news, qui en fait exigeraient qu'on vérifie les sources, les croisements des données, et qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'oralité porte en soi plus l'ignorance, même si on est à la radio, mais l'oralité porte en soi plus d'ignorance que l'écrit. Et l'écrit est plus exigeant en termes de savoir, du coup.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Alors, j'aimerais bien reprendre un tout petit peu deux images. On en a déjà parlé un tout petit peu, mais voilà, on peut essayer de continuer à savoir cette opposition, pour qu'on les reprenne et qu'on essaye d'en saisir un tout petit peu le contenu, entre l'imbécile heureux, on en a déjà parlé, et au fond le savant triste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait au fond qu'on a un petit peu cette idée-là qu'il y aurait une espèce de naturalité, oui, d'état de nature comme ça, qui serait associé à une forme finalement de bonheur, même si on le pense dans le cadre d'un processus, et que finalement tous les savants, tous les gens qui réfléchissent, etc., seraient un petit peu tristounés, j'ai envie de dire, voilà, je reconvoque Hermione, qui est quand même plutôt la chieuse dans l'histoire de Harry Potter, quoi. Hein ?
Oui, c'est celle qui prend la tête.
Celle qui prend la tête, voilà.
Parce que c'est justement souvent, pour rebondir sur ce que tu dis, on se prend la tête ou on ne se prend pas la tête.
Voilà.
Et le fait de ne pas se prendre la tête, c'est un peu
Associé au bonheur.
Associé au bonheur et un certain état d'ignorance. En tout cas, voilà. D'ignorance, mais dans le deuxième sens, c'est-à-dire ne pas vouloir savoir.
Ouais.
Ce n'est pas tellement un rapport à la connaissance, c'est plus un rapport à vouloir, encore une fois, éviter ce qui fait problème.
Oui.
Parce que l'avantage d'Hermione qui se prend la tête, c'est que quand même, dans les situations compliquées, elle trouve des solutions.
Exactement.
C'est elle qui trouve la formule magique pour régler le problème, etc. etc. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle a un rapport au bonheur différent de celui de ceux qui, par contre, se prennent moins la tête. Je crois que c'est Ron qui est celui qui représente celui qui ne se prend pas trop la tête. Quoi.
Oui, oui, oui.
Mais qui a plein de problèmes en même temps.
Oui, oui,
lui
tout
aussi.
À fait.
Donc, je ne sais pas très bien si on peut dire ça. En tout cas, il y a quand même, pour reprendre les deux situations, se prendre la tête ou pas se prendre la tête, en réalité, je pense... Enfin, en réalité, j'en sais rien. Je ne sais pas si on peut dire en réalité, en tout cas, pour continuer dans le fil de ce que j'avançais tout à l'heure, et je suis têtu, donc je reste un peu dans cette position-là. C'est-à-dire qu'il y a une question relative au désir, en tout cas, qui se pose. Et la connaissance peut être un objet de désir. Un objet de désir qu'on n'atteint jamais, parce qu'effectivement, on ne peut jamais atteindre un état de connaissance absolue. Donc, il y a toujours du désir possible dans la recherche de connaissance. Et le fait de mettre en marche le désir n'est pas nécessairement synonyme de bonheur, surtout que, effectivement, le désir, s'il continue, c'est qu'il rate un peu sa satisfaction.
Mm-hmm.
Parce qu'un désir satisfait, par définition,
il s'épuise.
Alors que ce désir toujours en marche de connaissance, ça peut être... Mais je pense que cette situation d'être perpétuellement désireux d'apprendre, d'acquérir des connaissances, peut être, dans certains cas, complètement une situation de bonheur. À l'inverse, le désir se présentant sous une forme tout à fait différente, c'est-à-dire sous celle de ne pas vouloir trop se casser la tête, donc vouloir éviter cette situation d'être en acquisition de connaissances, là, effectivement, peut aussi, finalement, l'école buissonnière, par exemple, peut être une situation de bonheur. Et c'est la situation qu'on peut rapprocher d'une forme de volonté d'ignorance. Enfin, il faudrait voir, parce que l'école buissonnière, c'est une école, quand même. Donc, on y apprend aussi des choses, peut-être pas les mêmes.
Gabriel.
Oui, ce que tu viens de dire, Olivier, me permet de faire le lien entre l'individu et son intériorité et l'individu social. Parce qu'en fait, la question que je me pose à travers ce désir qui ne serait pas atteint et qui en générerait à nouveau le mouvement vers autre chose, vers d'autres désirs, vers d'autres comportements, c'est pourquoi ? C'est pourquoi le savant est triste ? Alors, derrière ce pourquoi le savant est triste, c'est pourquoi le savant recherche ? Et derrière le pourquoi le savant recherche, c'est en fait, dans cette recherche, y a-t-il, et je reboucle avec l'aspect social, quelque chose qui finalement le rend moins libre en termes de responsabilité par rapport à ce désir de liberté et de d'appropriation, de dévoration du monde qui pourrait être le sien et qui ne peut aboutir de toutes les façons.
Voilà. Je ne sais pas si le savant est triste, mais pour, par exemple, pour reprendre ton histoire de la puce et des pattes qu'on arrache à la puce, le savant, bon, je ne sais pas s'il est très bien nommé, parce qu'aujourd'hui on aurait plutôt tendance à dire le chercheur,
oui.
Et je pense que ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il est impossible de tout savoir, on avait cette illusion jusqu'au XVIIe siècle de pouvoir tout savoir, et puis hop, ça s'est effondré au moment, juste avant justement les Lumières, mais le chercheur, en fait... Je ne sais pas s'il est triste. En tout cas, du point de vue de la question de la connaissance et de l'ignorance, c'est à la fois sans doute celui qui se donne le plus de moyens de connaître, donc le plus de moyens de fuir l'ignorance, et qui, comme ça, dans ce processus d'acquisition de connaissance, est celui qui probablement de plus en plus va mesurer le plus fortement l'étendue de son ignorance. C'est paradoxal de le dire comme ça. Et pourtant, peut-être que par rapport à la proposition initiale, l'ignorant peut-il être heureux, il faudrait compléter en disant que le plus grand ignorant est sans doute celui qui en connaît le plus, au fond.
Oui, tout à fait.
Et du coup, je ne sais pas quel type de rapport au bonheur on peut articuler avec ça. C'est-à-dire que d'une certaine façon, j'avais plutôt répondu par exemple non au tout début à ta question, Dominique. Ignorant peut-il être heureux ? Plutôt non. Je me dis que peut-être que si, à condition que ce soit aussi quelqu'un qui acquiert en permanence des connaissances en grand nombre.
Mais ça, du coup, c'est un ignorant qui sait qu'il ne sait pas.
Voilà.
Donc, c'est pas tout à fait un ignorant.
Non, c'est une autre sorte d'ignorance, en tout cas.
Alors, moi, je reprendrai l'idée de Gabriel à propos du champ social. Parce qu'en fait, je me disais, si on reprend l'idée du savant triste, pourquoi il est triste ? Et je me disais, pourquoi le savant pourrait-il être triste dans notre image, par exemple ? Évidemment, on est de l'ordre du cliché. Et je me demandais si c'était pas parce qu'il était justement uniquement centré sur son savoir. Tandis que le savant joyeux, mettons, c'est toujours un petit peu simple, mais on pourrait dire le chercheur heureux de sa découverte ou de son travail, va le faire dans un espace qui va être un espace collectif. Donc, est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une espèce de solitude de l'ignorant ? Je me demandais au fond si l'ignorant, ce n'est pas celui qui, dans une certaine mesure, avait choisi... C'est une illusion, bien évidemment, ou pourrait choisir de rester seul, par exemple. C'est-à-dire seul par rapport à un savoir, mais où le savoir ne serait pas du côté de la connaissance, mais aussi de la connaissance de l'autre, c'est-à-dire du rapport à l'autre. Est-ce que finalement, l'ignorant, ça serait d'abord et avant tout l'ignorant de l'autre, l'ignorant de l'altérité, l'ignorant de la différence. Et au nom de cette ignorance, justement, on pourrait dire, à ce moment-là, eh bien oui, il va peut-être avoir du mal à être heureux.
Mais Dominique, moi je réagis à ce que tu viens de dire. J'ai l'impression que tu parles de l'ignorant qui n'est pas ignorant, parce que tout se passerait comme si il savait que derrière cette non-ignorance qu'il pourrait acquérir, il y avait encore un principe... frustrant de...
Ça, c'est un faux ignorant, celui-là.
C'est un faux ignorant.
On est d'accord.
C'est parce que l'ignorant peut être un ignorant paresseux.
Oui.
Un ignorant qui vit la vie qui, comme on cueille une pomme sur un arbre, sur un pommier.
Là, ça serait même celui qui attendrait que la pomme tombe dans sa bouche, alors, celui dont tu parles.
Là, ça serait le nec plus ultra, mais c'est le béa, le contemplatif absolu qui...
C'est plutôt l'imbécile heureux, là, voilà. Celui-là, quand même. Hein.
Voilà. Non, moi, je pense qu'on a, on peut pas s'enfermer dans un vide de contact avec l'environnement qui fait qu'on est ignorant de tout. Donc, on a quand même un minimum de connaissances. Ne serait-ce que pratique. Et donc, la vraie ignorance serait l'ignorance non pas choisie, mais acceptée. accepté par le principe de la paresse.
Et qui suppose, dans ces cas-là, une connaissance. Cette ignorance choisie. Parce que si elle est choisie...
Qui a servi, en tout cas, la conscience, qui a servi sa conscience à un besoin prioritaire supérieur qui est le fait d'être avare de son énergie, finalement.
Olivier,
je pensais à ce que tu disais juste à l'instant de la connaissance comme connaissance de l'autre. En fait, c'est exactement ce que raconte aussi, alors on peut en donner d'autres interprétations complémentaires, mais l'épisode de la sortie du paradis terrestre dont tu parlais en introduction, c'est-à-dire que on croque la pomme, c'est Ève qui croque la pomme, qui
merci
paradoxalement, voilà, et paradoxalement, c'est ce morceau de pomme qui reste en travers de la gorge d'Adam, hein, la pomme d'Adam le dit suffisamment. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est aussi une conquête de liberté, en quelque sorte, que raconte cette histoire-là.
C'est une conquête de la liberté.
Voilà, hein, et que cette conquête de la liberté n'est pas sans prix. N'est pas son prix à payer, on va dire également. Donc, c'est cette espèce de... Là, vraiment, très concrètement, à nouveau, une dialectique entre la connaissance et l'ignorance qui se pose à partir du moment où il y a un premier acte comme, à chaque fois, un choix, au fond. C'est-à-dire que on fait le choix de connaître, et connaître, hein, au sens biblique du terme, c'est vraiment connaître l'autre dans sa radicale différence. Il y a notamment une question sexuelle, hein, dans cette manière de parler de la connaissance. Oui. Voilà, la connaissance biblique, elle est aussi de cet ordre-là. Croquer la pomme, aujourd'hui, la métaphore est suffisamment évocatrice pour que tout le monde sache à peu près ce que ça veut dire. Bon, c'est aussi, alors non pas peut-être du côté... du bonheur ou du malheur, mais en tout cas, c'est aussi du côté du plaisir que ça se pose. Alors, je ne suis pas certain, effectivement, je ne suis pas certain qu'on puisse associer systématiquement le plaisir et la multiplicité des moments de plaisir avec le bonheur, puisque ça peut aussi tourner à l'addiction. Donc, il faut équilibrer certainement ces rapports-là. Mais en tout cas, est-ce qu'il peut y avoir un plaisir dans l'ignorance? Ce n'est pas certain. Il y a peut-être plus une forme d'abandon de la mécanique du désir, du plaisir, et c'est peut-être plus du côté désir-plaisir que du côté du bonheur que le choix de l'ignorance et de la connaissance se pose. La connaissance étant, restant à nouveau une conquête, conquête de l'autre, conquête de l'inconscient, conquête des savoirs scientifiques, etc., conquête toujours. Donc conquête et quête infinie, évidemment, quoi.
Moi, je mettrais quand même un doute également sur ça, parce que l'époque moderne est quand même... l'ignorance est omniprésente dans la population. L'ignorance des
moins qu'avant ?
Ah oui, moins qu'avant, mais avec un niveau de développement des connaissances qui va croissant. Et donc, l'écart qu'il y a entre la personne... qui ne savait pas auparavant avec ce qu'elle aurait pu savoir, et l'écart de ce que la personne qui ne sait pas aujourd'hui par rapport à ce qu'il faudrait savoir est allé croissant. Et moi je trouve, dans une population, alors sur quoi je me base pour dire ça, je me base sur une perception, parce qu'en fait, on est aussi pétri par cette... réalité-là, lorsqu'on parle, on peut pas développer jusqu'au bout la véracité de ce qu'on pense. Et donc ça amène beaucoup de personnes à faire le choix d'une rationalité partielle, incomplète.
Mais tu veux dire, dans ces cas-là, d'un pseudo-savoir, alors ça serait...
D'un pseudo-savoir
qui serait
par
presque
auto-conviction. Par auto-conviction. Ouais. Et je trouve que l'époque actuelle est particulièrement démonstratrice de ce processus-là.
Alors, je reviendrai peut-être finalement, quand je repense à ma question initiale, je me dis que quand j'ai parlé de l'ignorant, j'ai surtout pensé à celui qui n'a pas de connaissance, comme tu viens de le reprendre d'ailleurs, Gabriel. Est-ce que finalement, il s'agit du côté de la connaissance d'un objet ? Est-ce que finalement, la vraie question du côté du bonheur, ça ne serait pas est-ce que la question ne se joue pas dans l'impossibilité d'une ignorance de l'autre ? C'est-à-dire, non pas du côté de l'objet, mais du côté de la personne. Et c'est pour ça que peut-être il y aurait une sorte d'opposition fondamentale entre la possibilité d'être heureux et le statut de celui qui ignore l'autre. C'est un écart que je fais hein, par rapport à ma question initiale, que quand on entend l'ignorant, on entend plutôt celui que tu as convoqué tout à l'heure en disant, il me semble, si j'ai bien compris, qu'il y avait un décalage entre le savoir individuel, qui n'augmente finalement peut-être pas tant que ça, et le savoir collectif qui, bien évidemment, augmente énormément, énormément. Il y a des milliers de choses qu'on comprend et qu'on ne comprenait pas avant, des milliers de choses que l'on sait, voilà. Mais notre savoir individuel reste toujours limité. Donc, est-ce que finalement, la question de l'articulation entre la connaissance et le plaisir, que tu convoquais tout à l'heure, Olivier, et puis la connaissance et le bonheur, c'est pas la différence entre l'objet et puis la personne.
Sûrement, et même peut-être... alors, je vais faire un pas de côté sur ton pas de côté, peut-être, d'ailleurs. Mais au fond, quand une personne désigne une autre personne comme ignorante, c'est certainement pas tellement une mesure de la quantité de connaissances relatives de l'un par rapport à l'autre, mais plutôt... cette personne désigne alors le fait que cette autre personne ne sait pas ce qu'elle-même sait. Inversement, il n'est pas impossible que la personne taxée d'ignorante puisse faire exactement la même chose avec la première personne qui s'auto-congratule en se définissant comme connaissante, comme sachante. Par exemple, si on reprend l'idée des peuples dits premiers, voilà, le savoir de ces peuples sur un ensemble de choses, par exemple les connaissances en herboristerie, sont totalement fascinantes. Simplement, comme c'est un domaine de connaissances ignoré du savant occidental, enfin, plus aujourd'hui peut-être, mais globalement, au moment de la rencontre, en tout cas de l'Occident et des peuples dits premiers, l'occidental dit ce sont des ignorants. Mais simplement parce qu'ils ne savaient pas les mêmes choses. Et l'occidental était regardé par la plupart des peuples premiers comme également quelqu'un de très, très ignorant. Ils ne connaissaient même pas les dieux, par exemple. Voilà, ils ne connaissaient pas non plus les médecines utilisées, etc. etc. Donc, je ne sais pas très bien si... en dehors de personnes sans doute très empêchées du point de vue du raisonnement intellectuel ou du point de vue de l'acquisition de connaissances, l'imbécile heureux, hein, celui qui est un peu l'idiot, quoi, l'idiot du village, je crois que tu parlais de ça tout à l'heure dans ton introduction. En dehors de cet aspect très particulier des choses, et encore, il faudrait voir peut-être un peu plus loin, mais il n'y a pas d'ignorant en soi, dans l'absolu. Il y a l'ignorance d'une dimension culturelle ou d'un partage culturel à un moment donné par quelqu'un qui en est extérieur. Voilà. Mais nous sommes tous, par exemple, il suffit d'imaginer faire un petit voyage au Japon, dans le Japon traditionnel, dans les campagnes japonaises. Je pense que nous serions tous ici, dans ce studio, tous les trois, extrêmement ignorants de comment il faut se comporter, de ce que veut dire telle ou telle chose, de la signification de tel édifice, de la manière dont on peut aborder quelqu'un dans ces édifices-là, etc. etc. Très, très, très ignorant. De la même manière qu'un Japonais, peut-être, arrivant et entrant dans la cathédrale, ne saurait pas non plus à quoi... à quel saint se vouer, quoi, quelque sorte.
Oui, quand je me suis posé cette question, l'ignorant peut-il être heureux, j'ai ouvert aussi cette porte dont tu parles, Olivier. C'est-à-dire, en fait, mais l'ignorance, n'y a-t-il pas des degrés dans l'ignorance, des degrés d'ignorance. Et ça, ça m'a poussé à faire un inventaire des ignorances. Et je vous le confie, parce qu'en fait, si on croise degrés d'ignorance et champs de cette ignorance, on a une myriade de cas de figure qui sera bon de prendre en compte lorsqu'on voudra illustrer le propos. Alors, pour moi, l'ignorance, dans ce que j'en ai retrouvé, c'est il y a les erreurs logiques, il y a les croyances plus ou moins rationnelles, les superstitions, les préjugés, les illusions et, trônant en majesté, bien sûr, l'absence du savoir, de la connaissance qui permet, une fois appropriée, de se mouvoir différemment dans l'environnement, dans la réalité des choses, quoi. Voilà. Mmh. Voilà. Et donc, je voulais juste ajouter ça. Ce principe de degré qu'il faudrait croiser avec le principe de champ.
Oui, peut-être on pourrait rajouter les biais cognitifs, par exemple, aussi, qui interviennent dans notre perception du monde et qui participent à notre capacité à être très rapidement de grands ignorants, par exemple. Alors, moi, j'avais envie qu'on revienne à des choses peut-être un petit peu pratico-pratiques, ouais, qui seraient, est-ce qu'on peut, nous, essayer de se dire quel champ du savoir, de la connaissance, serait susceptible de contribuer à notre bonheur ? Et qu'on n'en parle pas en termes d'humanité entière, mais en termes d'individus. Je reprends un petit peu ma question. Est-ce qu'on peut essayer de soi-même, à partir de sa propre expérience, peut-être de son propre savoir, ou peut-être de sa propre spontanéité, se dire, ouais, quand même, dans ma vie, voilà tel ou tel champ du savoir qui m'ont permis, qui ont contribué, en tout cas, à ce processus, hein, à ce processus qu'est... ou à ce goût du bonheur, j'ai envie de dire, à ce goût du bonheur sur la lèvre, comme dit le poète.
C'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, ça nous oblige à un effet réflexif sur nous-mêmes pour savoir effectivement... La question, est-on heureux ? Pour autant qu'elle puisse être une question dynamique, hein, qui ne s'installe pas dans un état permanent de béatitude. On ne se la pose pas aussi nettement que cela dans la vie. Dans la vie, on ne se pose pas la question d'être heureux, on se pose plutôt la question de se satisfaire.
Mais est-ce qu'au fond, quand même en arrière-plan, ce n'est pas toujours cette question quand même du bonheur qui est là ? Je vous donne deux exemples. J'ai, moi, l'impression qu'il y a deux espaces du champ de la connaissance qui contribue à ce goût du bonheur sur mes lèvres. Hein. Le premier, c'est comprendre certaines choses du monde. Et la deuxième, c'est comprendre beaucoup de choses dans le champ de la relation. Parce que, il me semble, comprendre le monde me permet de m'ajuster mieux et ça m'aide à être un petit peu plus heureux. Par exemple, à faire des choix. Voilà, et la connaissance aide à faire des choix, et certains choix contribuent au bonheur. Et dans le champ de la relation, apprendre au fond, c'est-à-dire acquérir une connaissance sur les justes capacités relationnelles à l'autre, ça contribue aussi à mon bonheur. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Ça me fait penser un autre plan. Alors là, pour le compte très, très concret, je suis libraire. Dans ma librairie, entre beaucoup de gens qui disent « Mais il y a trop de livres, jamais je n'arriverai à lire tout ce que je veux lire, etc. » La seule réponse qu'un libraire peut faire, c'est « Mais tant mieux. » Tant mieux, parce qu'en effet, il y a toujours la possibilité, une impossibilité complètement infinie, ou en tout cas à l'échelle d'une vie humaine, infini, de vivre ce plaisir-là de la découverte d'un livre. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense qu'au contraire, le fait de ne jamais pouvoir en finir est l'assurance de toujours pouvoir avoir ce bonheur, c'est-à-dire cette bonne rencontre avec un nouveau livre. C'est quelque chose d'extrêmement concret, ça. Évidemment. Après, évidemment, il y a le corollaire, c'est-à-dire que le pire des malheurs serait d'avoir tout lu. Le pire des malheurs serait donc de tout savoir. Et est-ce que, justement, la condition du bonheur n'est pas de pouvoir, comme tu le disais, comprendre le monde, comprendre l'autre, comprendre les relations dans lesquelles on est, et savoir qu'on n'en a jamais fini. Cette idée-là d'infini me paraît être l'une des plus belles idées, qui sont celles aussi qu'on retrouve probablement dans les promesses tenues par la foi, quelle qu'elle soit, quoi. Cette promesse d'infini. Quelque chose comme ça, d'infini, de la nouvelle rencontre. Voilà, et qui a trait à la question de l'amour, bien sûr. Oui.
Alors moi, je vais répondre à ta question à l'inverse, parce que je suis rebelle, non pas parce que je suis rebelle, mais parce que c'est comme ça que se pose la question pour moi. Je ne me pose pas la question d'être heureux, je me pose la question de ne pas être malheureux.
Oui.
Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qui me rendrait malheureux ? C'est le principe de perte de l'attachement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me rend malheureux, c'est l'inconnu dans lequel la destinée humaine s'inscrit. On sait qu'on apparaît, on est sur les rails de la vie, jusqu'au moment où, effectivement, la mort intervient. Et cette mort, en fait, si on ne la transcende pas, elle est une négation de la vie, non pas dans ce qu'elle a de matériel et de concret, mais elle peut être une négation de ce qu'on voudrait pérenniser. Et non pas forcément éterniser, mais il y aurait cette fibre-là qui apparaîtrait. Et l'élément le plus déstabilisant, du coup, serait la perte des repères de l'attachement.
Moi, je crois que ça, c'est une notion importante, hein. En tout cas du côté de la finitude. Et probablement, il y a quelque chose d'un lien étroit entre le bonheur et puis quelque chose autour de la finitude. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc peut-être on va s'en tenir là. J'avais envie juste, pendant une petite minute, de convoquer auprès de vous, peut-être je vous demande une réponse un petit peu courte, du côté de la figure du sage, qui est une sorte de figure à l'opposé, j'allais dire, du savant triste et de l'imbécile heureux. Et il semble bien que, dans le contenu, en tout cas symbolique, de la figure du sage, il y ait à la fois le goût du bonheur et quelque chose autour de la connaissance. Est-ce que cette figure du sage, ça vous évoque quelque chose ?
Oui, moi je crois que c'est la sagesse, ce serait, en tout cas dans la conception que j'en ai, hein, d'avoir conscience de sa finitude, mais de ne jamais en finir, vraiment.
De jamais en finir de ?
De jamais en finir vraiment, de continuer justement à la poursuite du bonheur.
Gabriel ?
Oui, le sage m'énerve un peu, pour tout vous dire. Parce qu'en fait, le propre de la vie, pour moi, c'est de ressentir les choses et derrière de les réguler en fonction d'une valeur supérieure. Alors qu'elle soit transcendante ou qu'elle soit purement concrète dans le partage d'un collectif. Et le sage, c'est quelqu'un pour moi qui gagnerait à se mouiller plus qu'il ne le fait.
Il y aurait peut-être quelque chose qui serait un peu arrêté, c'est le sage, en contradiction avec ce processus dont, Olivier, tu parlais avant, hein, c'est-à-dire ne jamais arrêter quelque chose dans le processus et de la connaissance et peut-être de ce goût du bonheur. Bon.
Juste un dernier mot. Je ne voudrais pas que les auditeurs comprennent dans ce que je viens de dire que je valide le principe d'un égocentrage absolu qui consisterait à dire « je le vaux bien et donc ce que je pense a matière à être ». Il y a tout un pan de régulation et d'harmonisation avec le reste de ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire l'extériorité, qui me paraît fondamentale.
Alors, l'ignorant peut-il être heureux? Peut-être on peut continuer à se poser cette question. Sûrement, l'être humain a naturellement la passion de connaître. Ça, c'est Aristote qui dit ça. Et que cette ignorance, c'est notre destin, c'est notre condition initiale, mais probablement pas notre destin. Alors, il me semble quand même que vous étiez quand même relativement d'accord pour dire que c'était quand même difficile d'être heureux en étant ignorant de tout, qu'il y avait un processus qui était en cours, mais aussi que le savoir ne pouvait pas remplir en tout cas la vie et qu'il pouvait être aussi une grande source de désillusion. Et je reprendrai ce que tu disais, Gabriel, à la fin, en disant que peut-être que l'acceptation de notre finitude conditionne une partie de notre bonheur. Peut-être, et on peut laisser ça en question, on peut se poser la question, est-ce que finalement il faut être sage, associer au fond ces deux conditions d'être à la fois ignorant et connaissant et pour pouvoir être heureux. Alors nous nous revoyons, chers auditeurs, le mois prochain avec une nouvelle question. L'art peut-il changer le monde? Gabriel, un grand merci. Olivier, un grand merci.
À bientôt, Dominique.
À bientôt.
Au revoir à tous.
Au revoir. Thank you.